Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
À Kinshasa, comme dans d'autres villes du pays, les personnes souffrant des maladies mentales sont de plus en plus visibles sur les artères principales et autres places publiques. Certains d'entre eux sont en tenue délabrée, parcourent les rues à longueur des journées. D'autres, par contre, peuvent s'habiller décemment, mais on les voit en train de monologuer à tout bout de champ. Alors comment reconnaître un malade mental et comment c'est fait la prise en charge? Est-ce que c'est normal de voir des personnes qui ont des problèmes au niveau de la tête, se promener ainsi dans la ville, un peu partout? Eh bien, c'est le sujet que nous abordons dans quelques instants avec notre invité, le professeur Timothée Kamangamboui, psychothérapeute. Professeur, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour les amis de la Radio Okapi.
Professeur, c'est Jody qui est à l'antenne. Nous parlons aujourd'hui des malades mentaux. Qui est-ce qu'on appelle un malade mental?
Merci bien de votre observation et de votre thème du jour. En fait, pour parler de malades mentaux, d'une manière très simple, il s'agit de personnes qui connaissent une altération légère ou grave de leur état psychique et qui entraîne des troubles de comportement tels que vous les observez. Voilà un peu d'une manière brève. Une maladie mentale ou un malade mental. C'est quelqu'un qui est perturbé, partiellement ou profondément, dans sa manière de se comporter, dans sa manière de penser, d'être avec les autres.
Alors, comment expliquer le fait que ces personnes qui sont perturbées se promènent dans les rues sans problème? On nous a signalé, surtout quand vous allez dans la province du Bas-Congo, à Matadi et à Boma, vous trouvez beaucoup de malades mentaux qui sont aussi, on peut le dire, en train de divaguer.
Merci bien, Fondi. Votre observation est correcte, mais il faut vous dire que les malades mentaux que vous voyez errer dans la ville, c'est une interpellation du gouvernement au travers les ministères qui ont la santé de la population et le bien-être dans leur attribution. Donc vous comprenez que c'est une préoccupation qui devrait être de la santé publique. C'est vrai que vous voyez des malades errants partout à travers les artères de la ville. Et cela nous vous fait penser carrément à ce que j'appellerai ici une certaine catégorisation des malades mentaux. Il faut savoir quelles sont les différentes catégories de ces malades qu'on appelle malades mentaux, pour pouvoir parler de la prise en charge. Il y a des malades mentaux qui sont altérés partiellement. Et il y a les malades mentaux qui sont altérés foncièrement. Et leur prise en charge ne sera pas la même. Pour ceux qui sont altérés partiellement,
oui,
la prise en charge peut se faire en ambulatoire. Ça signifie qu'il y a la famille qui a amené ce malade dans des structures qui existent pour cet objectif. Et il y a une catégorie de malades mentaux qui sont pratiquement altérés foncièrement et qui sont rejetés par la famille. C'est cette catégorie-là que vous voyez à travers les artères de la ville, des grandes villes du pays.
Voilà. Donc vous venez là de distinguer deux catégories, des malades mentaux, ceux qui sont altérés partiellement et les autres qui sont altérés complètement. Et c'est cette dernière catégorie qu'on retrouve beaucoup plus en train d'errer dans les rues, un peu partout. Alors comment devrait se faire la prise en charge de ces personnes? Est-ce que c'est normal, professeur, de voir ces gens errer un peu partout dans la ville?
Fodi, je voudrais vous retourner un peu dans le passé. Votre question suppose une autre sous-question. Est-ce qu'il y a des infrastructures de prise en charge de ces malades mentaux, entre guillemets? Donc, pour prendre en charge ces malades mentaux, on suppose qu'il y a des infrastructures de prise en charge. Et secondo, qu'il y a un personnel qualifié dans ces institutions, dans ces infrastructures, pour prendre en charge ces malades mentaux. Voilà un peu les préalables qu'il faut pour prendre en charge. Ces institutions n'existent pas.
Oui.
Et quel est l'apport de la famille dans la prise en charge. Ça, évidemment, nous en parlerons peut-être prochainement. Mais pour aujourd'hui, votre préoccupation devra répondre à cette question principale. Existe-t-il des infrastructures de prise en charge des malades mentaux dans le pays? Et ça, dans ces infrastructures, y a-t-il un personnel qualifié, formé pour prendre en charge cette catégorie de malades? Et la question suivante qui se poserait, c'est de savoir quelles sont les directives de prise en charge et de fonctionnement dans ces infrastructures ou dans ces institutions de prise en charge des malades mentaux. Parlerons peut-être ça.
D'accord, on aura le temps de répondre à toutes ces questions. Commençons d'abord par les infrastructures des prises en charge, professeur. Combien d'infrastructures nous avons dans notre pays, à Kinshasa par exemple, au Bas-Congo, et comment ces infrastructures fonctionnent?
Faut dire, la seule institution qui est connue dans la ville et dans la ville de Kinshasa, c'est le CNPP des cliniques universitaires. Je vous prierai de visiter le centre et de voir les réalités qu'il y a dedans.
Mmh.
En dehors de Kinshasa, il y a des structures privées, ça signifie des centres privés, qui viennent aussi au secours, évidemment, de tous ces malades errants que l'on trouve implantés par-ci, par-là, dans les restes des provinces. Une autre infrastructure connue, c'est celle des frais de charité dans le quartier occidental de Kikayu, dont, actuellement, je n'ai aucune information sur le mode de fonctionnement. Voilà un peu d'une manière ramassée. Lubumbashi, j'ai appris qu'il y a aussi une institution qui a 8 jours à Lubumbashi, à Bukavu, en ce qui concerne les prises en charge des victimes, des survivants des violences sexuelles, qui entre carrément dans la catégorie de problèmes de santé. Voilà un peu.
Et dans la province de Bas-Congo, est-ce qu'il y a des structures de prise en charge des malades mentaux?
En fait, comme je venais de vous dire, il y a des centres privés, de particuliers, qui fonctionnent, mais qui, de passer par le nombre important de ces patients, n'arrivent pas à réunir les conditions qu'il faut pour prendre complètement comme il se doit ces malades en charge.
Bien, nous avons déjà deux auditeurs en ligne, patient Paul à Kinshasa et Demeter Maloba, nous appelle Demanono dans la province du Katanga.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, comment assurer la prise en charge des malades mentaux? Patient Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, ainsi qu'à notre invité.
On vous écoute.
Oui, j'ai quelques préoccupations à donner à soumettre à notre invité. Est-il pour ou contre avec l'appui de certaines églises qui recoupent aussi donc certains fous, certains malades mentaux pour un peu appliquer la prière, mais sans toutefois suivre le processus donc concernant leur traitement donc médical. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi oui, ça c'est donc la première question. Et la deuxième question est de savoir qu'est-ce qui fait que dans nos rues qu'on retrouve donc bon nombre, donc beaucoup de fous, alors que dans les centres de traitement donc sont presque vides. J'ai un ami,
oui,
qui donc lui, ça fait plusieurs années qu'il est donc à tout moment, si nous arrivons au mois de juillet, août, il faut donc qu'il soit donc qu'il soit malade donc de la tête, ainsi de suite. Mais lorsque donc ses amis donc essayent de lui dire que donc allons dans des centres où donc là où on applique un peu donc des solutions pour un peu ce qu'on puisse que tu puisses donc te rétablir.
Il est refusé.
Il dit que oh là les camarades famille oui. Mutoa ebi soki bomeki komeki kende nanga kuna boya ou memanga mupamba soki la kufi ba okanga bino.
D'accord.
Est-ce que donc dans ce sens là,
oui,
cette personne peut-elle maintenant recevoir donc une un changement
D'accord.
Sinon, on l'a mené dans des centres de traitement.
D'accord, merci.
Et qu'est-ce qui fait que l'on...
Merci,
il faut pas
arrêter. Merci. Merci, patient. D'accord, merci, patient. Déméter Maloba, vous êtes à Manono. Bonjour.
Oui, bonjour, jeudi. Bonjour, Radio Capi. Et alors, moi, j'ai deux petites questions. En première position, je veux dire que ce genre de personnes qui souffrent, comme ce sont ceux-là qui ont été des maïs et qui mangeaient la chair humaine, et ce sont ceux-là qui ont été apportés comme ça. Mais j'aimerais poser à notre invité, comment faut-il maîtriser ce genre de personnes dans les milieux publics, surtout au marché, où ces dernières volent les chiens, étalent les vendeurs. Vous allez trouver quelqu'un qui passe. En passant, ils vont directement, alors on est en train de les poursuivre jusqu'à tel point on l'attrape. Alors comment il faut les maîtriser? Notre invité doit me répondre.
Bien, merci Déméter. Professeur Timothée, vous avez la parole.
Est-ce que vous voulez bien me répéter les questions? Parce que moi, je les suis très difficilement.
D'accord. La première question de patient Paul, il dit il y a certaines églises qui s'organisent pour regrouper les malades mentaux pour la prière sans passer d'abord par les centres de prise en charge, par les hôpitaux. Alors, il veut savoir est-ce que c'est une bonne façon de procéder?
Oui. Je crois que je voudrais informer peut-être ces pasteurs de ces églises-là de voir la direction générale de l'ECC derrière le Royal. Et il y a eu un atelier écuménique qui avait été tenu sur la prise en charge des malades mentaux. Il y a de très belles recommandations qui sont dedans. Donc, en quelques mots, je ne veux pas opposer l'Église à la médecine. Mais au cours de cet atelier, il avait été décidé qu'on devrait travailler la main dans la main. Ça signifie... Quand on amène dans une église un monsieur, un malade qui présente le trouble de comportement, que le responsable de cette église fasse appel aux spécialistes, à un professionnel formé, qualifié pour pouvoir l'aider, voir si ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Donc, en quelques mots, et le pasteur laisse le soin de diagnostiquer à ceux qui peuvent le faire, mais qui néanmoins rassure leur aspect de la maladie si elle est là chez le patient.
Voilà. Et patient nous appelle, nous parle de son ami au mois de juillet de chaque année. Il a des troubles mentaux. Alors, quand on lui dit d'aller à l'hôpital, il veut pas aller. Il dit que c'est une histoire des familles. Et si on insiste, il risque d'en mourir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à patient Paul de Kinshasa?
Comme conseil, il faut dire, je crois qu'il faut aider le monsieur à aller consulter. Quand il arrivera dans une institution spécialisée, avec où il trouvera un personnel qualifié, on ne va pas l'isoler de sa famille. Par contre, on va intégrer la famille dans le schéma de sa prise en charge. Donc, les institutions spécialisées ne sont pas là pour opposer les patients aux familles, aux membres de famille, ni non plus les conduire à une personne.
Ah bien, Déméter de Manon, on nous dit que certains maïmaïs qui mangeaient la chair humaine sont devenus fous là-bas, à Manon, et puis on les voit errer dans la ville, au marché, et certains volent les articles et on les suit, on les arrête. Alors il veut dire comment maîtriser ces personnes qui ont perdu leurs facultés.
De toute façon, si c'est quelqu'un qui a perdu des facultés dans ce cadre-là, encore un conseil gratuit, il l'amène chez un spécialiste. Le spécialiste va examiner et en collaboration avec d'autres spécialistes, d'autres professionnels, ils vont explorer cette dimension-là de consommer la chair humaine dont la conséquence serait une folie. Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas.
Valérie, voilà, c'est bien. Valérie Ndala nous appelle de Kolwezi, dans la province du Katanga. Bonjour Valérie.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Bonjour.
Quel est
d'accord.
Votre...
Bon, nous constatons bien sûr beaucoup de fous à travers la ville de Kolwezi. Et bon nombre de gens ont cette idée là. Il n'y a pas certainement quelque chose qui dit que lorsqu'il y a un fou, c'est soit qu'il a sorti les rues, quoi. Alors, ici à Kolwezi, je ne trouve pas qu'il y a un lieu d'hébergement où ils apportent des prises en charge de ces personnes-là. Un fait qui est vrai, il y a au moins un cabinet de psychologues cliniques, Alors, j'allais poser la question, la première question auditaire, est-ce qu'il y a une différence entre la psychiatrie, la psychologie, donc un psychiatre, un psychologue et un clinicien, un psychothérapeute pour étudier de la prise en charge des malades. La deuxième question, quels sont les conseils vraiment qu'il faut donner à ces gens-là qui pensent que lorsqu'il y a un fou, donc c'est une sorcellerie, ou plus encore, cela dépend de situations magiques par rapport à l'imagination dans son esprit, une imagination certainement africaine.
Oui, Valérie, vous dites qu'à Kolwezi, il y a beaucoup de malades mentaux.
Bon, pas certainement, mais il y en a comme à travers toute la République, quand même, il y a certains malades, mais je trouve même des petits enfants vraiment qui ont mis dans la ville. Des enfants là, qui ont des pathologies au niveau mental. Et la famille les abandonne comme ça, ils ne sont pas pris en charge.
Donc, c'est comme d'accord.
Ça. C'est vrai, s'il y a au moins une sensibilisation, ils peuvent ramener les enfants au niveau de la famille dont je vais parler.
Bien. Alors, vous affirmez qu'à Kolwezi, il n'y a pas tellement de centres, de centres de prise en charge des malades mentaux, ce qui fait qu'on les voit errer dans les rues de la ville. Merci d'avoir appelé Valérie. Christian Kazadi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Christian, bonjour.
Bonjour. Oui, je vous appelle à partir de Kinshasa.
Quelle est votre question, Christian?
Oui, je voudrais savoir un peu que le professeur puisse nous éclairer sur l'étymologie, parce que maintenant là nous sommes en train de parler des malades mentales. Est-ce qu'il y a une différence entre un malade mental et un fou? Là, c'était la première préoccupation. Et la deuxième, c'est aussi par rapport à ce qu'a évoqué mon prédécesseur, en fait, qui concerne l'aspect spirituel ou des fétiches, parce qu'il y a certaines personnes qui affirment que c'est peut-être dû à une visite d'une personne chez un féticheur après avoir mal appliqué
les
recommandations des féticheurs, la oui. personne pourrait devenir fou à la suite. Qu'est-ce que le professeur peut nous éclairer sur ces points-là?
Bien, merci. Professeur Timothée, vous êtes en ligne?
Oui, je vous suis.
D'accord. Commençons avec Valérie de Kolwezi qui nous affirme qu'il y a aussi des fous, des personnes, des malades mentaux qui circulent à Kolwezi, mais il n'y a pas de centre de prise en charge et il voudrait savoir quelle différence il y a entre un psychiatre et un psychothérapeute, parce qu'il dit que certains vont voir les psychiatres sur place lorsque les familles ont des personnes qui souffrent des problèmes mentaux.
Merci bien, Fodi. Un conseil aux amis, à M. Valéry de Kolwezi. Ce qu'ils peuvent faire, c'est demander une session de formation. On peut former. Il y a les travailleurs sociaux à Kolwezi, certainement. Et, il y a une structure qui peut obtenir un financement, s'ils le font. Et on va essayer de former un noyau pour ceux qui veulent prendre en charge, évidemment, les malades mentaux à travers la ville de Kolwezi.
Alors Valérie revient, il parle aussi, il dit que certains, d'après ce qu'on entend, les malades mentaux, certains sont ensorcelés, on leur a jeté un mauvais sort et ils deviennent, ils perdent leurs facultés. Et Christian est revenu là-dessus, il dit que certains vont voir les féticheurs et on lui donne des consignes lorsqu'ils ne respectent pas, c'est fini, la personne perd les facultés. Il veut aussi qu'on puisse savoir la différence qu'il y a entre un malade mental et un fou.
Faut dire. C'est un des aspects d'approche et de recherche sur le problème de la santé mentale. Parmi le personnel qualifié de ces instructeurs, de ces infrastructures, de ces gens, il y a quelqu'un qui a fait l'anthropologie médicale, et il y a des philosophes qui pourraient aborder cet aspect de la chose dans le domaine de la recherche et nous apporter de la lumière. Donc, la différence qu'il y a entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute est très simple. Un psychiatre, c'est un médecin. Il y a comme sujet de son travail, de sa spécialité, le sujet en souffrance, le sujet confronté à ce que vous appelez communément maladie mentale. C'est le médecin qui prescrit, c'est le psychiatre qui prescrit les médicaments. Tandis que le psychologue clinicien, lui, il n'est pas médecin, mais il est le comptable de la santé mentale de l'individu. Il est, par sa formation, outillé pour lire beaucoup du processus de développement de l'individu, quels sont les problèmes qui constituent les nœuds qui vont devenir des maladies plus tard. Et il a ses médications. Alors que le psychiatre prescrit les produits pharmaceutiques, les médicaments, le psychologue clinicien, lui, a ses médications à lui, qu'on appelle évidemment des psychothérapies. Ce sont des techniques qui permettent aux individus confrontés à un certain nombre de problèmes de le résoudre sans nécessairement connaître évidemment une altération très grave. Donc, il devient psychothérapeute lorsqu'il rencontre ce malade mental à qui on a prescrit les médicaments, qui a consommé les médicaments et qui connaît des rechutes à répétition. Et en faisant l'analyse, il décide d'aider cette personne par sa formation à résoudre ce problème et à recouvrer sa santé. Et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle le psychothérapeute.
Alors, professeur, bon, les auditeurs reviennent sur l'origine de maladies mentaux, mais notre question aujourd'hui, c'est comment on parle beaucoup plus de la prise en charge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo puisse avoir des centres de prise en charge de qualité afin qu'on puisse plus retrouver ces malades mentaux dans les rues?
Bien. Fodi, vous avez répondu vous-même déjà à votre préoccupation. Il faut qu'il y ait plusieurs infrastructures de prise en charge des malades mentaux dans le pays. Ce qui sous-entend qu'il faut qu'il y ait aussi un personnel qualifié important formé à la prise en charge. Faute de quoi, ça ne sert à rien d'ouvrir un centre où il n'y aura pas un personnel qualifié pour prendre en charge les malades mentaux. Acceptez que je vous rafraîchisse la mémoire. Je souffre quand j'entends parler de mes frères, de mes sœurs, de mes cousines, de mes beaux-parents à l'Est qui sont traumatisés, qui sont abandonnés à eux-mêmes. On n'en parle pas. On peut dépenser de l'argent pour autre chose. Il y a des enfants, des grossesses qui sont issues de viols. Ces enfants-là qui naissent, qui les prend en charge. Et ces femmes qui ont porté ces enfants pendant 9 mois au prix de ce qu'elles ont connu comme problème, qui s'en occupe? Quelle structure est mise en place à l'Est, évidemment, pour prendre ces enfants et cette population en charge? Les effets des guerres, là, les spécialistes savent qu'il y a des syndromes, des maladies mentales, entre guillemets, le terme, l'expression que je n'aime pas très bien, qui vont se manifester plus tard. Et qu'est-ce que nous faisons pour prévenir les conséquences de tous ces effets?
Alors, professeur, on va accueillir 2 autres auditeurs, mais avant cela, quel peut être le rôle des familles dans la prise en charge des malades mentaux?
En fait, c'est la famille qui pose le premier diagnostic des malades mentaux. Ce n'est pas l'institution, c'est la famille. Il faut que les familles soient sensibilisées, comme c'est le cas actuellement avec Ebola. Il faut que l'on possède par informer la population sur les manifestations ou les préludes de certaines maladies mentales. Voilà l'intervention, le premier rôle de la famille. Le deuxième rôle, c'est dans la prise en charge. Je prends l'exemple des toxicomanes, tous ces enfants qui fument du chanvre et qui se droguent. C'est là la famille qui doit jouer le rôle important. Le spécialiste va aider cet enfant à ne pas consommer ces produits, mais il va le retourner dans la famille. Si sa famille ne continue pas le processus amorcé par l'infrastructure, par les spécialistes, ça sera un travail condamné à échouer. Donc c'est la famille qui doit jouer de cadre d'encadrement et de suivi de la prise en charge amorcée dans une institution spéciale. Donc on ne peut pas exclure la famille de la prise en charge des malades.
Samson Alimassi nous appelle d'Ouvira. Serge est à Kamina. Samson, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Pardon?
On vous écoute, Samson.
Oui, je voulais vous dire si au village, souvent vous voyez les malades mentaux qui sont dans la ville, je me demande toutes des questions, parce que quand j'ai écouté, j'étais en train de parler, oh, là-bas, il y a des centres, là, on les met. Pourquoi maintenant ici, pas?
Voilà, merci. Serge Descamina, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour cher invité. J'avais une petite préoccupation en tout cas.
Oui.
Dans mon milieu où je vis en tout cas, je vois de tels gens en train de sillonner. Alors je me demande, est-ce que pour décharger ces mains à notre État, n'y a-t-il pas moyen de créer des cabinets, de multiplier les cabinets de psychopédagogues ou de psychologues, puisque ce sont les gens qui sont vraiment concentré sur la vie des individus. On les voit sillonner. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de le faire? Ou on aura encore à nous suivre par le gouvernement ou par l'État que nous, ils en ont créé quelque part. Je voulais demander à notre invité s'il peut nous éclaircir. Je dis et je vous remercie.
Bien, professeur Timothée, Samson nous dit qu'à Uvira, les malades, il a aussi constaté que les malades mentaux circulent, errent dans les rues et ne sont pas pris en charge. Serge propose qu'on crée des cabinets, des psychopédagogues pour prendre en charge ces personnes.
Oui, c'est un souhait. Je crois que l'émission qui passe sur Okapi est suivie par les autorités, par les responsables, par les décideurs. Vous sentez, vous comprenez vous-même l'intensité du travail, l'étendue du besoin dans la population. Et donc, il faut implanter pratiquement ces infrastructures dans les différents coins de la République. Si l'ami de Kamina pouvait prendre en charge ou son gouvernement provincial ou sectoriel pouvait prendre en charge une équipe de formateurs, bien, on le ferait sur place parce que moi-même, j'ai séjourné à Kamina et j'en sais quelque chose.
Voilà, donc on retient que si aujourd'hui on voit les malades mentaux errer, ça et là, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge, il n'y a pas assez des structures et de personnel qualifié pour les prendre en charge. Et vous avez dit, la famille aussi a un grand rôle à jouer pour aider ces personnes, pour les acheminer, voir les spécialistes. Et au niveau du CNPP, professeur, par exemple, là-bas, comment ça se passe?
Bien. Le CNPP, c'est la grande institution infrastructure qui existe dans le pays. Il y a la grande porte d'entrée. Quand une famille constate que un membre de famille ne se comporte pas comme il se devait ou ne raisonne plus comme il le faisait, la famille amène le malade au CNPP Mouamba. Au CNPP Mouamba, le malade est reçu par un service d'accueil. Qui va l'écouter et qui va l'orienter vers une spécialité. Et la spécialité, à son tour, va faire le bilan de la personne ou du sujet malade et déterminer les modalités de prise en charge. Si cette prise en charge peut se faire en ambulatoire, Dieu merci, elle va se faire en ambulatoire, mais si c'est une prise en charge qui exige une hospitalisation, on va conseiller à la famille de remplir les conditions qu'il faut pour que leurs membres de famille soient internés et la prise en charge assurée sur place par une équipe pluridisciplinaire où tous les aspects soulevés par les amis, l'impact de l'Église, la sorcellerie, manger la chair humaine, toucher aux fétiches, etc. Il y a des spécialistes qui vont s'intéresser à ces différents aspects et qui, de commun accord, trouveront une stratégie pour pouvoir aider la personne. Voilà un peu, faut dire, comment se fait la prise en charge au CNPP.
Oui. Alors, professeur Timothée, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un cas? Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché, et vous avez renvoyé les cas vers une église pour des séances de prière?
Non, nous, par contre, faut dire, ce n'est pas nous qui envoyons les gens vers les églises, mais avant que les malades, entre guillemets, les malades mentaux arrivent aux CNPP, certainement, ils ont toqué la famille ou les membres de famille ont toqué à toutes ces portes. C'est un dernier rempart, évidemment, qu'on amène souvent des patients aux CNPP. Mais s'il s'avère que le patient en question est redevable à une telle sorte de thérapie, je crois que nous, les spécialistes, plus précisément moi, je ne m'y opposerai pas.
Est-ce que vous avez pris, il vous est déjà arrivé de prendre en charge des malades mentaux et après, ces personnes sont guéries?
Yes. Si vous cherchez les témoignages comme dans les églises de folie, il aurait peut-être fallu faire un avis de l'appel comme ça, on parlerait.
Mais professeur,
je m'appartiens pas de faire la publicité pour dire qu'il m'est arrivé, il m'est arrivé. Non, il n'entre pas dans mes intentions de faire cela.
Mais je peux poser la question autrement. Est-ce qu'on peut guérir lorsqu'un malade mental peut guérir de sa situation? Peut être guéri?
En fait, le mot guérir, là, le mot guérison, là, c'est un peu mal. Hein?
Mmh.
Ce qui est vrai que quand quelqu'un a connu une perturbation à un moment donné de la vie, on peut l'aider à ne plus reconnaître la même épisode, tomber dans la même épisode.
Oui, mais la personne peut, peut enfin retrouver ses facultés.
On peut lui apprendre à revivre avec son nœud-là, mais en lui donnant une autre sens,
oui.
En lui donnant une autre signification. Il peut récupérer. Il y en a qui reprennent leur vie normale, qui se marient, il y en a qui reprennent leurs activités. Mais, comprenez qu'ils sont déjà rendus fragiles.
D'accord. Professeur Timothée Kamangamboui, psychothérapeute, merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs, et à la prochaine.
Merci bien, Fodi. Merci. Oh,